Direct en jeu Radio Insolite, toujours encore sur la route du Festival OFF d'Avignon. Festival OFF, je vous rappelle, qui existe depuis un petit moment et qu'on va fêter quelque chose d'assez important le 12 juillet, puisque nous allons faire un hommage à André Benedetto, qui est l'un des créateurs du festival. Et puis après, évidemment, durant l'été, on parlera de ce petit jeune qui s'appelle Jean Villard, qui se trouve au même endroit que Georges Brassens à 7. Et vous savez que on va aussi fêter le 100e anniversaire de la naissance de Georges Brassens. Mais là, je suis avec, alors attention, on dit chorégraphe, c'est ça?
Tout à fait, chorégraphe.
Oh, ça va. Bonjour Michel.
Bonjour.
Bon, on attaque fort, hein, attention, hein. Mais bon, moi j'y peux rien parce que dans la présentation que j'ai de Michel Dalu, chorégraphe, il y a marqué « Garde l'énergie et le swing pour développer son activité ».
Oui, bah oui, complètement. Moi je viens initialement de la danse jazz qui est quand même, qui est la danse de l'adolescence. Vous savez, cette énergie débordante qu'on a à l'adolescence et je n'ai découvert la danse contemporaine qu'un peu plus tard dans ma vie, à l'aube de ma vingtaine. Et donc cette énergie du swing, du jazz, je l'ai toujours eue et c'est elle qui trace ma route en premier. Peut-être petit fil conducteur sous-jacent à toute mon activité.
Est-ce que j'ai le droit de vous dénoncer?
Aïe! Que donc?
Est-ce que parce que vous avez été piqué par la mouche de la danse jazz quand vous étiez aux États-Unis en 85?
Oui.
Ah, j'ai fait des recherches, faut pas croire.
Oui, 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 oui. Bah oui, complètement.
Non, c'était avant, c'était quand? Parce que bon, moi j'aime bien faire découvrir un peu les coulisses. Vous dansiez déjà quand vous étiez petite? Comment ça se passait?
Oui, j'ai commencé petite dans une école de grande banlieue, tout très simplement. Et puis, il a été vraiment clair que c'était l'endroit où je voulais être, dans le mouvement. Petit à petit, dans le mouvement est venu dans l'écriture du mouvement. Mais c'est vrai que j'ai un peu tout organisé. Je suis allée à la Sorbonne pour faire des études d'anglais, mais parallèlement, j'ai toujours continué à danser. Mm-hmm. Et j'ai un petit peu pris l'alibi de « Tiens, et si j'allais travailler mon anglais à New York pour pouvoir aussi… » C'est vrai que pour mes parents, qui n'étaient pas du tout du milieu artistique, danser, c'était pas un métier, quoi. Ça pouvait être un bon hobby, si c'est possible, mais certainement pas un métier.
Je vous ai pas demandé si vous aviez un vrai métier, hein, j'ai pas osé.
Non, mais bah si. non, c'est pas une passion, hein, c'est un vrai métier. C'est un vrai métier.
D'accord.
Même si initialement, c'était même pas une histoire de passion, je crois, la danse pour moi. C'est que ça me coule dans les veines, bien au-delà de ce que. De ce que je peux analyser.
Mais il y a quoi? C'est un film? C'est un artiste? C'est quoi le déclic?
Ah, le déclic, ce sont les comédies musicales américaines.
Ah, évidemment.
Et principalement Bob Fosse, qui est pour moi un immense génie chorégraphique, un immense danseur, un immense génie chorégraphique. Et pour la petite histoire, c'est vrai que j'avais un peu tendance à sécher mes cours à la Sorbonne pour aller. Il y avait à l'époque un cinéma qui s'appelait le Lafayette, qui passait de 9h du matin à tard le soir, plein de comédies musicales américaines, des séries B, comédies musicales. Mais je m'y suis étalée, j'ai grandi avec ça, en fait, et c'était vraiment un grand délice.
New York, c'est vraiment l'endroit où il faut être pour découvrir tout ça?
Ah, dans ma génération, oui, plus maintenant. Maintenant, il faut être à Berlin, il y a eu Bruxelles entre-temps. Mm-hmm. Mais oui, dans ma génération, il fallait être à New York. Il y avait tout le grand courant Cunningham, il y avait Trisha Brown, il y avait tellement de choses qui se passaient. Et puis, c'est vrai que j'adore la façon très, très pragmatique avec laquelle les anglo-saxons, parce qu'à Londres c'est un peu pareil, abordent la danse. Mm-hmm. C'est-à-dire que voilà, c'est un métier qui est difficile, c'est un métier qui on peut bosser. Je dirais que sur le continent, on est plutôt artiste. Et là-bas, ils sont ils y vont et ça, je pense que ça me correspond beaucoup plus en termes de personnalité. Et avec une exigence technique de dingue, et c'était vraiment ça, moi, qui me séduisait, quoi. Jamais je n'en avais assez, jamais. Quand j'étais au CNDC, mais je pouvais avoir 58 de fièvre, que j'étais encore en cours, je n'aurais rien raté, quoi.
58 de fièvre, oui.
Ah oui, là, oui, moi, je peux faire des extrêmes sans problème.
Vous avez carrément implosé, là, il n'y a pas de problème. Dites-moi, maintenant j'ai une question un peu délicate à vous poser, parce que bon, il faut que je revienne à ma tendre enfance et à votre tendre enfance, mais j'ai pas le choix, je suis obligé de vous poser la question. Est-ce que je peux ?
Oui, allez-y.
Vous êtes inquiète, hein ? Je me rappelle qu'à notre époque, quand on était tout petit, le carré blanc, c'était quelque chose où on n'avait pas le droit de... Enfin, c'est quand on mettait un carré blanc en bas à droite de l'écran de télévision, ça veut dire que le film était interdit. Pourquoi vous avez créé une compagnie qui s'appelle Carré Blanc 86 ?
Alors, ben, j'ai créé, au départ, moi, j'ai pris une inclinaison, mon parcours m'a amené vers des écritures pour l'enfance, oui. Mais au départ, j'étais pas du tout partie là-dessus, et le carré blanc n'avait rien à voir avec le carré blanc de la télévision. Oui. Ça venait de Casimir Malevitch, qui au bout de des années de recherche, un peintre russe qui a bossé au Bauhaus, qui a énormément fait des recherches sur l'abstraction et qui a abouti au bout de toutes ces recherches à se dire que le simplissime était peut-être le plus émotionnel. Oui. Et il a peint donc son carré blanc sur fond blanc, ce qui en général fait beaucoup rire.
Pardon, je peux, j'ai pas très bien compris. Un carré blanc sur fond blanc.
Oui, un carré blanc sur fond blanc, qui fait que...
Là, j'ai dû décrocher, c'est pas possible.
Mais si.
Comment est-ce qu'on peut, faire un carré blanc sur un fond blanc ?
C'est tout blanc. Alex Vizorek s'en manque bien dans son spectacle sur l'approche de l'art contemporain. Mais oui, en fait, moi, ce qui m'a beaucoup séduit, c'était l'idée que c'était peut-être dans la simplicité qu'on était le plus sincère et le plus efficace auprès du public. Et c'était ça qui je trouvais vraiment intéressant. Et ben voilà pourquoi au départ ça s'appelle, la compagnie s'appelle Carré Blanc. Mmh. Et puis c'est vrai que assez rapidement tout le monde m'a rattrapé en disant ah mais c'est le carré blanc de la télévision qui maintenant n'évoque plus rien puisque maintenant c'est interdit à telle tranche d'âge. Donc parler aux jeunes générations d'un carré blanc, mais ça leur est complètement inconnu. Non, moi, le tout départ, c'était ça. C'était l'espace scénique éclairé par les projecteurs. C'était un petit peu ce... Mais c'était vraiment plus l'idée de Malevitch qu'au terme d'années et d'années de recherches conceptuelles sur l'art, on arrivait à un essentiel et à une simplicité qui était un carré blanc sur fond blanc.
D'accord. Alors, moi,
le blanc étant aussi la réunion de toutes les couleurs. Donc, il y avait toute cette espèce de symbolique qui m'intéressait vraiment.
D'accord. Moi, ce que j'aime bien, c'est sur la présentation du spectacle qui va se dérouler donc sur le Hof d'Avignon. Là, c'est pas du blanc qu'on a, c'est du bleu.
Oui, voilà. Tout à fait.
Ça s'appelle Lumière, !, So Jazz.
Oui.
Ouais.
Pourquoi ?
Non, il y avait plus compliqué comme titre à trouver. Hein.
Ah oui, il y avait plus compliqué.
Pourquoi ?
Oui, il y avait plus compliqué. Ben pourquoi ? Parce qu'au départ, ce spectacle est une commande de La Strada pour le festival Jazz in Marciac et qui était de donner à entendre le jazz aux enfants, aux tout petits. Et c'est vrai que je me suis dit la meilleure façon d'entendre, c'est d'évacuer le visuel pour pouvoir juste laisser l'écoute. Donc l'idée était de passer dans une espèce d'unité de temps, d'une journée complète où on arrivait... On part d'une scène très éclairée pour enlever, aller dans la pénombre, aller dans l'obscurité et terminer où il n'y a vraiment plus rien, si ce n'est la musique, le swing de la batterie qui est juste donné à entendre pour vraiment quoi. Et voilà, c'était vraiment ça l'idée de partir. Donc ce bleu ben, vient de la pénombre de la fin de journée, de ce... Voilà, de cet endroit où on commence à se poser, à se calmer, à descendre en énergie et se laisser le temps de pouvoir savourer et profiter. D'accord. Voilà pourquoi il y avait tellement de bleu.
D'accord. Pour bien comprendre, il y a une différence entre le jazz pour les enfants et le jazz traditionnel ?
Non, absolument aucune. Mais il n'y a aucune différence. Hein. Les enfants vivent dans notre monde hein, et nous avons tous été des enfants. Mmh. Après, on a tous gardé une part d'enfance plus ou moins en activité, mais on a tous été des enfants. Et les enfants vivent... Il n'y a aucune raison de s'adresser à l'enfance d'une façon différente. Ils sont devant nos écrans télé, devant nos écrans Internet. Ils sont dans une réalité qui n'a pas besoin d'être forcément, infantile. Voilà.
Je revendique mon statut d'enfant. Hein. Moi, je resterai.
Ah, vous avez entièrement raison. Il faut, si le monde revendique beaucoup plus son enfance au lieu de la prendre comme étant un âge très à part de notre vie, je pense que nous irions beaucoup mieux. Tout à fait. Vraiment.
Donc, il y en a trois sur scène. Il y a du chant, il y a du swing endiablé et il y a des percussions corporelles.
Oui.
Ils se tapent dessus.
Tout à fait. Il se tape dessus.
Excuse-moi.
En toute douceur. Hein.
Je fais un raccourci très, très basique. Pardon.
En toute douceur. Mais oui. Comment est-ce que l'intérieur d'une bouche n'a pas la même sonorité qu'un ventre, qui n'a pas la même sonorité qu'une cuisse.
Mais dis donc, voilà. C'est quoi ces manières de parler, là? Un peu de tenue?
Ah bah, un peu de tenue, oui, tout à fait. Beaucoup de tenue. Non, c'est les percussions corporelles, c'est vraiment un endroit qui est très organique. Et ça, c'est aussi quelque chose qui relie avec la danse, qui fait une vraie passerelle entre la musique et la danse. Là où c'est le corps est vraiment l'instrument. Comme en danse, le corps est l'instrument de travail. Mmh. Et ben là, sur les percussions corporelles, c'est vraiment notre corps et les sonorités que nos chairs, que nos os, que nos cavités buccales peuvent produire. Voilà.
D'accord, ok. J'ai l'impression qu'il y a aussi, on parlait du blanc, on parlait du bleu, il y a pas mal de jeux de lumière parce que le spectacle a l'air de se dérouler dans un coin d'obscurité. Moi, de ce que j'ai vu comme teaser, comme présentation vidéo, j'ai l'impression que c'est un cadre un peu cosy, un peu tranquille.
Ben oui, parce que l'idée c'était quand même qu'on arrive à se lever dans la musique, c'est-à-dire que ce soit que le son que produit la batterie puisse être vraiment envoûtant, enveloppant et puisse donner le complet lâcher prise au spectateur. C'était vraiment ça. En fait, la batterie c'est un petit peu, enfin, je l'ai découvert hein, en créant ce spectacle. C'est un instrument qui a été créé par le jazz. Parce qu'avant, les instruments qui composent un set de batterie étaient dans les fanfares, mais la grosse caisse par ici, les chimes de l'autre côté, les cymbales un peu plus loin. Et c'est vraiment le jazz qui a nécessité de mettre à disposition du musicien l'ensemble de ses percussions, mais dans un espace très proche. Et la batterie est vraiment née dans les années 20 du jazz. Mmh. Et c'est pour ça que, là encore, c'était dans les instruments emblématiques, ce que j'aimais dans la batterie, c'était qu'elle pouvait avoir un aspect complètement rythmique, mais elle peut aussi avoir un aspect complètement mélodique. Et que dans les cuivres, par exemple, c'est ou la contrebasse, enfin dans les instruments qui sont très phares dans le jazz, je trouvais que la batterie était vraiment quelque chose qui donnait cette double entrée quoi, sur le mélodique et sur le rythmique. Et après, l'idée était de trouver une femme aussi. Parce que vous savez qu'il y a des instruments comme le violoncelle qui est plutôt féminin. Et ben là, la batterie, c'est plutôt masculin. Donc, trouver une femme, une batteuse, c'était déjà, c'était déjà un bon challenge, quoi. Voilà.
D'accord, ok. Juste un truc. Est-ce que... bière, par exemple, on a démarré, comment dire, sur la ville de Lyon, on a démarré le festival jazz Cour et Jardin. Et hier, l'Alzi Trio, qui faisait une reprise de chansons en rythme brésilien, avec Charles Trenet, avec Yves Montand, nous a demandé à un moment donné de fermer les yeux pour intégrer la musique dans nos têtes.
Oui.
Est-ce que c'est quelque chose qui se fait d'une manière beaucoup plus... qui donne plus de sentiments, entre guillemets, plus d'émotions quand on fait comme ça?
Mais je pense que c'est surtout se dédier à quelque chose. C'est comme quand vous êtes, enfin, quand vous entrez dans une salle et que vous vous asseyez. En fait, un des gros jobs du spectateur, c'est quand même de se dédier à ce qu'il va aborder, que ce quel que soit le champ artistique, que ce soit de l'opéra, que ce soit de la musique, que ce soit de la danse, des marionnettes. Enfin, c'est vraiment un temps où il faut lâcher prise, laisser ses valises dehors, laisser tout un peu en stand-by, et puis se mettre, oui, à cette écoute. Mais quand je parle d'écoute, c'est sensoriel à souhait, quoi. C'est pas juste au niveau de l'oreille. C'est vraiment, il faut laisser.
D'accord.
Filer l'émotion dans le corps, quoi. C'est ça, c'est, y a que comme ça qu'on peut accéder à de l'émotion, à de la poésie, à quoi que ce soit. C'est en lâchant prise.
D'accord. Avignon, c'est la première édition?
Oh non. Non, ça doit.
Franchement, j'aurais pu poser la question autrement, mais je l'ai fait exprès là. Non, mais franchement, Alain, tu pourrais faire des efforts quand tu poses des questions. Quand même.
Oui, Alain, s'il vous plaît, faites un effort. Notre première édition était en 97, donc vous voyez, on n'est pas des petits genoux sur l'histoire, et on y revient très régulièrement, parce que c'est un endroit qui est difficile, mais c'est un endroit qui est aussi magique, quoi. Et puis, vous parliez de Villard tout à l'heure. Moi, je suis une adepte de cet homme, de sa pensée. J'ai lu et relu en livre de chevet son Memento. Enfin, voilà, c'est un endroit de promotion. Faut pas se le cacher.
Ah oui, tout à fait. Oui.
On est complètement là-dedans en tant que compagnie et en tant qu'artiste. Mais c'est un endroit aussi où vous avez l'occasion pendant 3 semaines de découvrir un tas de spectacles qui, dans l'année, dans les courses-poursuites de la diffusion, vous n'avez pas forcément le temps. Voilà, de re-rencontrer des compagnons de route d'il y a longtemps, que vous avez un peu perdu de vue, ou qui ont changé, qui sont partis de l'autre côté en direction de théâtre, ou voilà, c'est tout cet endroit-là qui est magnifique.
Alors, comment est-ce que je peux faire pour avoir des infos sur vous et pour venir vous voir?
Alors, le mieux, c'est d'aller voir sur le site du Totem, puisque nous jouons au Totem, qui est la scène conventionnée Art Enfance et Jeunesse d'Avignon, qui se trouve avenue Montclar, un petit peu derrière la gare, en tout cas hors les murs, hors les remparts. Et voilà, là, vous aurez l'ensemble des programmations du Totem. Et nous jouons tous les jours, sauf les dimanches.
Oui.
Nous jouons tous les jours à 10h20 dans la grande salle jaune citron du Totem.
Et après, vous allez à la piscine, vous allez à la plage, vous allez vous balader.
Que nenni. Que nenni. Après, justement, je file dans les remparts, justement, pour aller voir plein d'autres spectacles, rencontrer des amis, prendre des rendez-vous professionnels. Non, j'arrête pas. J'ai que 3 semaines pour profiter de tout ça.
Oui,
je vous ai déjà un peu expliqué ma suractivité quand je travaille. Ben voilà, non, à Avignon, il faut pique-niquer, aller se baigner, il y a tout le temps, il y a tout le mois d'août pour faire ça.
D'accord. Ok, ben en tout cas, moi je voulais vous remercier d'avoir pris ces quelques minutes pour vous expliquer tout ça, faire découvrir les coulisses, et puis ben, au plaisir de vous croiser quand je serai sur site. Je vous rappelle, on fera une émission tous les 2 jours en direct de la terrasse du Palais des Festivals. Mais malheureusement, ça va être très original. Ça va être sûrement une seule année où ça se déroulera. Mais le Festival de Cannes et le Festival d'Avignon ont lieu en même temps.
Voilà. Ouais, okay. Tout à fait.
Merci à vous. Bonne journée.
Très bonne journée. Merci beaucoup, Alain. Au revoir.